Chapitre 49. Le soleil vient de se coucher et une lumière bleutée se diffuse dans l'atmosphère. L'éclat ultramarin se reflète sur la fine couche de neige du quartier résidentiel. Le sol semble phosphorescent. Yona arrive au niveau du cordon de sécurité où un agent lui fait signe de continuer. Il longe la file de voitures de police en stationnement et se gare dans la pente derrière un véhicule de commandement. Il grimpe jusqu'au périmètre, montre sa carte, puis continue sur l'allée. Une ambulance est garée devant une vieille maison des années 1970, dont les larges baies vitrées donnent sur l'eau. Le chauffeur est assis derrière le volant, le visage enfoui dans ses mains. La grande bâche blanche de la police scientifique est dressée devant la maison. Elle est éclairée de l'intérieur à la manière d'un chapiteau prêt pour un dîner de gala. Un policier en uniforme est en train de vomir près du garage, pendant qu'un collègue lui tapote le dos. Des techniciens, avec des combinaisons par-dessus leurs vêtements d'hiver, photographient le sol. Leur flash illumine la neige d'un éclat agressif. Yona salue un collègue au nez rouge posté devant la tente et lui demande où se trouve Erickson. « Toc, toc !» dit le collègue en repoussant la porte en toile de la tente. « Qui est là ?» demande une femme depuis l'intérieur. « La police !» répond-il. « La police qui ?» continue-t-elle sans lever les yeux de son travail. « Police, ouvrez la porte !» dit-il en souriant. Yona se penche pour entrer, salue la technicienne du centre de médecine légale et la voit rougir légèrement. Un radiateur vrombit au sol et l'air chaud fait bomber le toit de la tente. Sur la grande table sont disposés des sachets biopaques, des enveloppes de conservation, des cartons, des tubes de transport, du Basic Yellow 40 et du film gélatiné. Un peu plus loin à l'intérieur, Erickson est assis devant un ordinateur. Massif, il porte une combinaison blanche, une charlotte et un masque baissé autour du cou.
Jésus de Nazareth, soupire-t-il en levant les yeux de l'écran. Loin de là, répond Yona.
Les premiers policiers sur place ont forcé la porte d'entrée, explique Erickson en montrant la porte fracassée. L'agresseur l'avait vissée de l'extérieur. On voit les traces de longs bouts de la visseuse. On n'a rien déplacé, juste photographié, numéroté et relevé les empreintes. Erickson raconte que l'auteur du meurtre a aussi pris une planche dans la pile de bois derrière la maison et l'a vissée en travers de la porte du garage pour l'empêcher de s'ouvrir de plus de 25 centimètres.
« On fera le point quand tu auras terminé, » dit Erickson.
« En attendant, je continue. » Yona enfile une combinaison et des surchaussures, passe la porte défoncée et entre dans le hall en marchant sur les dalles de sol. Il traverse le salon et monte l'escalier. Pour une raison inconnue, il a été prévenu avec retard de ce meurtre à Stocksund. L'information aurait dû lui parvenir dès la nuit même. Il suppose que le lien n'a pas été fait parce que, pour la première fois, la victime était une femme. Ce n'est que quand Erickson est arrivé sur place et a demandé si Yona était passée que l'erreur a été corrigée. Yona traverse la cuisine, entre dans la chambre, s'arrête sur une dalle, se tourne vers les débris de la porte et écoute l'enregistrement de l'appel d'urgence. Ida s'est enfermée et parle à l'opérateur, tandis que les coups de hache résonnent en arrière-plan. Sa voix est désespérée. Apeuré.
Que voulez-vous dire par folle ? Demande l'opérateur.
Une femme avec une hache est entrée dans ma maison.
Dès que l'opérateur saisit la gravité de la situation, il demande l'adresse pour envoyer une patrouille, mais l'appel est interrompu en plein échange. L'air dans la chambre est glacial. Yona regarde au dehors. Aucune trace de pas sur le balcon. Juste de petites cavités laissées par les éclats de verre quand la porte vitrée a été brisée. Le lit a été projeté contre un mur. Yona ouvre la porte du placard à linge et découvre le passage. Il quitte la pièce et entre dans la chambre d'enfant. La grande armoire à jouets est de travers. Ida a tenté de s'enfuir par là. L'agresseur a brisé la porte de la chambre, a vu qu'elle était vide, puis s'est acharné sur la porte du balcon. Yona enjambe un petit crocodile en plastique vert, entre dans la cuisine ouverte, remarque un verre de vin brisé sur le carrelage brun, descend les escaliers, retourne dans le salon et salue un technicien.
« La serrure a été percée, »
dit l'homme en montrant la porte coulissante en verre. Yona le remercie pour l'information, contourne l'escalier et ouvre la porte de la chaufferie. L'auteur du crime a bloqué toutes les issues et est entré par la terrasse. Yona passe devant la pompe à chaleur. Les projecteurs du garage éclairent le sol derrière la porte. En plus de la hache, le meurtrier avait une visseuse et un foret à pointe trempée. Yona passe le seuil, entre dans le garage et s'arrête sur la première plaque, aveuglée par la lumière blanche. Chaque recoin est illuminé. Des vélos aux pneus dégonflés, des skis et des outils de jardin sont figés dans une torpeur sans ombre. Erickson entre avec une chaise pliante sous le bras. Sans dire un mot, il s'assied en soupirant et observe la scène de crime. L'air est saturé d'une odeur âcre de sang et de matière fécale. Le temps semble s'être arrêté ici. Plus de la moitié du sol est recouverte de sang. Il a éclaboussé les murs, le plafond, des piles de pneus et un coffre de toit bleu. Il a coulé sur une caisse de boules de Noël. Un petit vélo rouge et bleu avec des autocollants Spider-Man se tient là, témoin muet du massacre. L'empreinte du pneu est visible sur le bord de la mare de sang. Yona se concentre, force ses yeux à scruter chaque détail pour reconstituer mentalement la scène. Cette mutilation est la plus brutale de toutes. La tête a été séparée du corps, et celui-ci a été taillé en morceaux. Les doigts, les bras, les jambes et les pieds sont éparpillés sur le béton brut. La moitié inférieure du tronc de la femme repose sur le ventre, les fesses nues, tandis que la partie supérieure est sur le côté, enveloppée dans une robe de chambre en soie. Une des cuisses présente une dizaine d'éraflures et de plaies superficielles. Yona analyse les traces de sang et déplace méthodiquement son regard sur les plaies, les découpes imbibées de sang, la moelle osseuse, les cartilages, les fragments de cerveau. « Je suis désolé pour toi », murmure-t-il en changeant de gants en latex. « Tu parles encore aux morts ?» remarque Erickson. « Parfois », répond Yona. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être est-ce une manière de montrer du respect au milieu de cette froide analyse technique. Il veut dire à Ida qu'il la voit comme une personne, dans toute sa dignité, et lui rendre une forme de justice. Le corps émet des bruits visqueux quand Yona retourne prudemment les deux moitiés sur le dos. À cause de la perte considérable de sang, les lividités sont à peine visibles. Seule une pâle auréole apparaît à l'endroit où la peau de la cuisse a été pressée contre le sol. Les hanches montrent des éraflures, et les poils pubiens blonds sont imprégnés de sang. La robe de chambre s'est ouverte sur le haut du corps, dévoilant un sein d'une blancheur laiteuse. Au-dessus du nombril, deux entailles forment un V. La colonne vertébrale, en éclats, dépasse de 3 centimètres du tronc, et du sang noir suinte des tissus déchiquetés. Le meurtrier était possédé par une rage incontrôlable. Cela évoque les atrocités commises par des soldats poussés à une fureur vengeresse. À cette différence près, il n'y a rien de sexuel ici. Aucune blessure n'est dirigée vers les organes génitaux, l'anus, la bouche ou les seins. Elle n'a pas été torturée. La mutilation est nette, centrale. Ida a tenté de s'enfuir, mais la porte du garage était bloquée par la planche. Elle a essayé de ramper à travers l'ouverture, a été tirée en arrière et tuée presque immédiatement, conclut Yona en retirant ses gants.
Déjà fini ? Demande Erickson.
Non. Mais l'enquête a pris un tournant assez brusque. Je dois parler à l'équipe avant un nouvel entretien avec Hugo Sand à Uppsala. Erickson fait un geste vague vers le sol jonché de sang et de morceaux de corps.
Tu n'as pas regardé, mais il n'y a pas de blessure de défense sur la face extérieure des avant-bras, dit-il.
Évidemment, murmure Yona.
Ah bon?
Elle a été tuée trop vite pour se défendre.
D'un coup dans le dos ou à l'arrière du crâne, tu penses?
Le dos, répond Yona en quittant le garage.